Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 27 novembre 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Trudeau se dit serein d'avoir invoqué les mesures d'urgence contre les manifestants. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le Parlement iranien a approuvé un projet de loi autorisant l'Iran à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté un trafiquant d'armes dans la province méridionale de Khuzestan. Et puis, les tirs de roquettes contre une base illégale américaine dans le nord-est de la Syrie, confirmés par le CENTCOM. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le Parlement iranien a approuvé un projet de loi autorisant le pays à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. Les députés ont adopté à une écrasante majorité le projet de loi lors d'une séance publique ce dimanche. Pas moins de 205 parlementaires ont donné leur feu vert au projet de loi. Les députés ont déclaré que la Russie et la Chine, en tant que deux membres clés de l'Organisation de coopération de Shanghai, bénéficiaient de niveaux élevés d'échanges et de transactions commerciales, faisant de l'organisation l'un des organismes régionaux les plus importants. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a décrit l'approbation comme un signe de la détermination de Téhéran à renforcer davantage sa coopération au niveau régional et international, en particulier en Asie. Il a déclaré que le multilatéralisme est la réalité du siècle actuel. L'Organisation de coopération de Shanghai est un organisme eurasien visant à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre les États membres. Dans un geste provocateur, la page officielle de la Fédération américaine de football affiche le drapeau national iranien sur les réseaux sociaux sans l'emblème de la République islamique en violation flagrante du code disciplinaire de la FIFA. Le compte Twitter de l'équipe masculine américaine a affiché une bannière de ses matchs de la phase du groupe de la Coupe du Monde avec le drapeau iranien uniquement affiché en vert, blanc et rouge sans le symbole d'Allah. La même chose s'est produite dans les publications sur ses comptes Facebook et Instagram. La Fédération américaine de football a déclaré dans un communiqué qu'elle avait décidé de renoncer au drapeau officiel sur les comptes de médias sociaux pour montrer son prétendu soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains. En effet, selon l'article 13 du code disciplinaire de la FIFA, toute personne qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité d'un pays par des propos ou des actes méprisants, discriminatoires ou désobligeants sera sanctionnée d'une suspension d'au moins 10 matchs ou d'une durée déterminée ou avec toute autre mesure disciplinaire appropriée. L'Iran doit affronter les États-Unis mardi dans un match décisif dans le groupe B. Les forces de sécurité iraniennes arrêtent un trafiquant d'armes dans la province méridionale de Khuzestan. La police de la province du Khuzestan, dans le sud-ouest de l'Iran, a déclaré que les services de renseignement et de sécurité avaient arrêté un passeur véhiculant une cargaison de munitions. La police locale a déclaré samedi que les forces de sécurité ont neutralisé un passeur qui transférait des armes vers la capitale provinciale d'Ahvaz. Le passeur a été arrêté lors d'une opération réussie à Ahvaz en coordination avec les autorités judiciaires, ajoute la police. Selon la source, un Colt, 1800 cartouches Kalachnikov, 50 cartouches Colt et 8 chargeurs cachés dans le véhicule du passeur ont été saisis. La sécurité des personnes est une ligne rouge pour la police, ont souligné les autorités, promettant une réponse décisive à quiconque qui chercherait à perturber la sécurité nationale. Plus tôt ce mois-ci, l'Organisation du renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique a identifié et démantelé une cellule terroriste soutenue par un pays européen, toujours dans la ville d'Ahvaz. Selon une source du renseignement bien informée, les aveux des membres détenus de cette cellule de sabotage avaient révélé leur plan pour assassiner un certain nombre de personnes et de personnalités dans la province arabophone iranienne de Khuzestan. L'armée américaine a déclaré que l'une de ses bases, considérée comme illégale par Damas, dans le nord-est de la Syrie, avait été la cible d'une attaque à la roquette. La troisième de ce type, en 9 jours, a confirmé le commandement militaire américain au Moyen-Orient, CENTCOM. 2 roquettes auraient visé une base de patrouille à Al-Shadadi vendredi soir. Rien n'a filtré pour le moment sur les origines des roquettes tirées, mais selon les dernières informations, elles n'ont causé ni blessés ni dommages à la base. Des centaines de soldats américains sont toujours en Syrie dans le cadre de ce que les États-Unis appellent la lutte contre les restes du groupe terroriste Daesh. Les troupes américaines dans la région soutiennent les miliciens armés kurdes. Il y a plus d'une semaine, des roquettes ont visé la base du village vert américain qui se trouve dans le plus grand champ pétrolifère de Syrie, Al-Omar. Selon l'armée américaine, une frappe de drone turc cette semaine a tué 2 miliciens kurdes soutenus par Washington et posé un risque pour les troupes américaines dans le nord-est de la Syrie. Enfin, un Israélien succombé à ses blessures subies lors des rares attentats à la bombe qui ont frappé Al-Quds occupée plus tôt cette semaine. Ce décès porte à 2 le nombre d'Israéliens tués dans les attentats qui ont également fait 13 autres blessés. Mercredi, 2 explosions ont frappé des arrêts de bus dans la ville qui, selon les forces de sécurité, ont explosé à distance. Aucun groupe n'a jusqu'à présent revendiqué les attentats. Les attentats à la bombe sont survenus au milieu d'un pic de violence qui a coûté la vie à 6 Israéliens et 14 Palestiniens ce mois-ci dans toute la Cisjordanie occupée. Israël a intensifié sa répression dans les territoires occupés ces derniers mois sous différents prétextes. Plus de 120 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de cette année, ce qui a amené le ministère palestinien des Affaires étrangères à demander à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes israéliens dans les territoires occupés. Le ministère a à maintes reprises condamné les agressions meurtrières continues contre les Palestiniens. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Trudeau se dit serein d'avoir invoqué les mesures d'urgence. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fermement défendu vendredi 25 novembre la décision de son gouvernement d'invoquer la loi sur l'adoption de mesures d'urgence pour mettre fin aux manifestations qui ont paralysé la capitale. Trudeau a témoigné vendredi devant la commission d'urgence de l'ordre public pour conclure 6 semaines d'audience sur les pouvoirs invoqués en février pour mettre fin à des semaines de manifestations menées par des camionneurs qui ont paralysé Ottawa et perturbé le commerce. Le convoi de la liberté de camionneurs est arrivé à Ottawa le 29 janvier des 4 coins du pays pour protester contre les mesures de santé publique, y compris la vaccination obligatoire. Ils ont fermé la capitale et bloqué certains passages frontaliers pendant des semaines en janvier et février. Justin Trudeau a invoqué la loi autorisant la police et, en théorie, l'armée du pays à réprimer les manifestants, notamment en saisissant des camions, en fermant des comptes bancaires et en suspendant les assurances. La loi sur les mesures d'urgence stipule qu'une urgence nationale est une situation urgente et critique de nature temporaire, qui ne peut être traitée efficacement en vertu d'aucune autre loi du Canada, a-t-il dit. Trudeau a déclaré que l'utilisation des pouvoirs d'urgence était inévitable, affirmant qu'il n'était pas possible de négocier avec les manifestants. Il a affirmé que les manifestants avaient enfoncé des véhicules dans des voitures de police et utilisé des enfants comme boucliers. Il a déclaré que la police craignait de stocker des armes, tandis que l'Agence d'espionnage du Canada a mis en garde contre la présence de personnes faisant la promotion de l'extrémisme violent à motivation idéologique. Nous avons vu les choses s'aggraver. Nous devions faire quelque chose pour assurer la sécurité des Canadiens, a-t-il déclaré à la Commission. Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, David Vinon, a témoigné qu'il ne croyait pas que la manifestation correspondait à la définition d'une menace à la sécurité nationale en vertu de la loi sur le SCRS. Au cours de son intervention, l'avocate de la Commission a également laissé entendre à Trudeau que les manifestations ne constituaient pas une menace pour la sécurité du Canada, telle que définie dans la loi sur le SCRS. Celui-ci a réagi en déclarant que ces mots sont inclus dans la loi sur le SCRS pour donner au SCRS le pouvoir de prendre des mesures contre un individu, un groupe ou un complot en particulier. Les organisateurs du convoi, cependant, ont déclaré que leur action était une réaction légitime contre les politiques perverses du gouvernement. « Nous n'étions pas là pour perturber les habitants de la ville, nous étions là pour être entendus », a déclaré la camionneuse Brigitte Bolton.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition de débat de Presse TV français. Nous sommes le samedi 26 novembre en direct depuis la capitale iranienne Téhéran et depuis le studio de Presse TV français. En effet, l'Europe est face à une crise énergétique et beaucoup de pays européens, à savoir la France, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne, sont face à une pénurie d'énergie et ont de gros problèmes quant à l'approvisionnement énergétique. Alors que vont faire les pays européens face à cette crise? quelles sont déjà les raisons de cette crise énergétique, les raisons économiques, mais surtout politiques, et quelles seront alors les solutions des gouvernements européens en ce qui concerne cette crise énergétique qui s'approche de plus en plus avec l'arrivée de l'hiver. Nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités qui nous rejoignent depuis la France, mais également depuis la Belgique. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Les problèmes liés à l'approvisionnement énergétique en Europe ont confronté certaines puissances de ce continent, dont l'Allemagne et la France, à de nombreuses difficultés, si bien que Paris a prévu de longues pannes d'électricité à l'échelle nationale. L'Allemagne a annoncé que la pénurie d'électricité mettrait en danger les universités. On a une forme d'inquiétude ou de vigilance pour janvier, a averti la présidente de la Commission de régulation de l'énergie CRE, Emmanuel Wargon. Le pire qui peut se produire, ce sont des coupures ciblées, décidées et qui tournent d'une ville à l'autre en cas de météo trop froide. Et si les consommateurs ne réduisent pas leur consommation lors des alertes, a-t-elle ajouté, voulant croire à la bonne volonté des Français en matière d'économie d'énergie. Je suis très convaincu que le premier jour à Covat, dispositif d'alerte rouge, tout le monde prendra ça au sérieux pour réduire ponctuellement sa consommation et ainsi éviter une coupure, a-t-elle poursuivi. Une alerte rouge de Covat signifie que le système électrique est très tendu, autrement dit que la production et les importations ne suffiront pas à couvrir l'ensemble de la consommation et qu'une coupure d'électricité sous forme de délestage est inévitable. En Allemagne, l'université de Koblenz-Landau, qui se trouve en Rhénanie-Palatinat, prévoit de réduire ses heures de cours de début décembre à janvier. Le gouvernement allemand a demandé aux citoyens d'économiser pour faire face à la pénurie d'électricité. D'autres universités allemandes ont adopté la même politique. Dans le Land de Thuringe, les établissements d'enseignement supérieur prévoient de fermer leurs bibliothèques et leurs salles d'études. En Espagne, un grand nombre de citoyens se tournent vers l'aide alimentaire, car la flambée de l'inflation à travers le pays a poussé les prix des denrées alimentaires à un niveau record. Selon l'Institut national des statistiques, une institution administrative autonome indépendante, les prix des denrées alimentaires espagnoles ont bondi de 15,4% en octobre pour marquer leur plus forte augmentation en près de trois décennies. Suite à la flambée des prix du carburant en France, issue de la suspension de l'exportation du pétrole et du gaz russe vers l'Europe, le Sénat a adopté un amendement au budget 2023 en faveur d'une autorisation de l'usage de l'huile de friture usagée comme carburant. Cette autorisation est limitée aux véhicules appartenant aux entreprises et aux collectivités. La chaîne de télévision russe RT a rapporté que la hausse des coûts en France a obligé le gouvernement à autoriser l'utilisation de l'huile alimentaire usagée comme carburant pour voitures. Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine fin février, la perturbation des chaînes d'approvisionnement a entraîné une hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, poussant l'inflation à des niveaux records et faisant grimper le coût de la vie.
Nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV français. Je suis en direct avec Bernard Cornu, politologue depuis Vaucluse, et Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles. Je vous dis bonjour messieurs et merci d'avoir accordé votre temps pour ce débat. Je m'adresse d'abord à vous, monsieur Cornu, qui est avec nous par Skype depuis Vaucluse. Donc, dans un premier temps, monsieur Cornu, quelles sont les raisons de cette crise énergétique, que ce soit les raisons économiques, politiques intérieures, mais surtout en ce qui concerne les politiques extérieures des dirigeants européens?
La première raison est évidemment la guerre en Ukraine et l'interruption ou la diminution de nombreuses livraisons russes aux divers pays européens.
Oui.
Et donc, les pays européens qui ont des mix énergétiques, c'est-à-dire des modes de production de l'électricité et puis du chauffage par différentes énergies, les principales étant le gaz, le pétrole et le nucléaire un peu en France, et de plus en plus les énergies renouvelables, éolien dans les pays du Nord, le solaire dans les pays du Sud principalement. Donc ce mix énergétique est très différent et aussi les tarifs des énergies sont très différents selon les pays. Donc en fait, chaque pays a des capacités de réagir plus ou moins fortes pour éviter à terme les coupures, pour éviter de trop fortes augmentations des prix pour les ménages et pour les industries, qui compromettraient dans l'industrie la compétition de certaines industries très consommatrices d'énergie. Et donc, il est difficile de trouver au niveau de l'ensemble de ces pays européens, dans l'Union européenne, les 26 pays, très rapidement des solutions communes, puisque les situations de chaque pays sont très différentes, les tarifs, les mix énergétiques et les voies de recours pour trouver d'autres solutions parmi les énergies renouvelables qui sont de toute façon assez longues à mettre en place. On ne peut pas donc réagir à l'échelle d'une saison, de deux saisons. Et l'hiver qui s'approche, effectivement, fait qu'il y a des risques pratiquement dans tous les pays d'avoir des coupures temporaires, quelques heures, qui seront de toute façon très dommageables pour l'opinion publique. Donc le problème est d'abord de résoudre le problème de la guerre et de pouvoir restaurer de façon juste et solide les relations entre l'Europe et la Russie.
Mmh. Merci pour vos explications. Restez en ligne. Alors, Monsieur Dupré, merci également à vous d'être avec nous pour ce débat. Pour vous, quelles sont les raisons principaux de cette pénurie d'énergie, de cette crise énergétique dont l'Europe est empêtrée dedans, en fait ?
C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que le conflit avec la Russie, les conflits à l'Ukraine... Et l'entrée quelque part dans une forme de guerre par proxy est étendue à tout le continent européen. Par proxy, je veux dire en fait ce souci sur les livraisons de gaz. Il faut se rendre compte que ça représente une amputation de l'ordre de 40% de la consommation annuelle de gaz en Europe. Donc évidemment, substituer une source d'importation de gaz de l'ordre de 40% de sa consommation annuelle, ça ne peut pas se faire très rapidement. Or, nous sommes en conflit depuis le mois de mars, mois d'avril. Il faut bien se rendre compte que de ce point de vue, certains pays sont plus touchés que d'autres. Il est clair que, par exemple, la Belgique et la France sont un peu moins touchés, un peu moins impactés parce qu'il y a une production nucléaire d'électricité. Pour un pays comme l'Allemagne qui a répudié le secteur nucléaire, le gaz, les centrales au gaz jouent un rôle tout à fait essentiel dans l'approvisionnement énergétique des ménages et des entreprises. Donc là, dans ces pays-là, la situation est tout à fait critique. Alors, je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que pour l'instant, en tout cas ici en Europe du Nord-Ouest, on vit un début d'hiver qui est très clément. Je suis allé faire une course ce matin. J'étais simplement avec un petit polo. Il fait 12 degrés dehors à Bruxelles. C'est du jamais vu. Évidemment, dans ces conditions, les stocks de gaz, on y touche un peu moins. Mais nous savons tous, tout d'abord, que l'hiver finira bien par arriver à un moment donné. Je veux dire, il n'est pas normal que, dans des pays comme le nord de l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, on est à mois de novembre, enfin une entrée au mois de décembre supérieure à 10 degrés. À un moment donné, les données météorologiques vont s'aligner sur les habitudes. Mmh. Alors, je pense qu'il faut également se rendre compte que finalement, si on se représente ce qu'est aujourd'hui la situation énergétique en Europe, eh bien, cette dernière se caractérise par une forme de course contre la montre.
Oui.
Le plus dur, le plus difficile reste devant nous. Tout d'abord parce que l'hiver va quand même finir à un moment donné par arriver, d'une part, mais surtout parce que dans le mix, enfin, dans les importations d'énergie et la reconstitution des stocks en Europe occidentale, il ne faut jamais perdre de vue que jusqu'au mois de juillet, nous avons importé beaucoup de gaz russe. Depuis, il y a cette rupture qui s'est installée. On peut même parler de nouvelle guerre froide, quelque part. Mais ça signifie donc que l'année prochaine, pour l'hiver prochain, le gaz russe sera sans doute manquant de manière tout à fait définitive. Et donc là, on va se retrouver avec une situation de pénurie qui ne pourra que renforcer les tendances inflationnistes observées actuellement, et également les difficultés d'approvisionnement. Mmh. Les deux aspects étant liés. Donc vraiment, nous ne sommes toujours pas, passez-moi l'expression, sortis de l'auberge.
Oui.
Alors je crois qu'il faut se rendre compte également de la modification des prix unitaires du gaz en Europe. Il est structurellement orienté à la hausse, hélas. Parce que le gaz que nous importions de Russie, ben, c'était via gazoduc, on a beaucoup parlé de Nord Stream 2, Nord Stream 1, du gazoduc qui fonctionnait via l'Ukraine. Ce gaz-là était relativement bon marché. La technologie de distribution gazoduc est bon marché. Aujourd'hui, nous importons essentiellement du gaz naturel liquéfié, du GNL.
Oui.
Donc c'est du gaz qui est remis à l'état liquide, est importé via des méthaniers et doit être remis à l'état gazeux pour être redistribué via les canaux de distribution classiques.
Oui.
Tout ceci coûte beaucoup plus cher. De surcroît, là aussi, ça renforce l'aspect de crise. Le Qatar, qui fait un petit peu figure d'Eldorado du gaz naturel liquéfié pour le moment en Europe, a conclu avec la Chine des accords de très long terme, sur 20 ans. Donc forcément, ça permet, si vous voulez, de lisser les prix dans le temps. Nous n'avons pas ce type de contrat en Europe avec le Qatar. Et donc, nous devons importer sur la base de prix définis au jour le jour, des prix au comptant, qui sont structurellement plus élevés, vu la pénurie qui existe chez nous, que si nous avions conclu il y a 5 ans des contrats sur 20 ou 30 ans avec ce pays. Et donc, alors, et j'ajouterais de surcroît que l'exploitation des ressources gazières et des importations qui pourraient provenir de l'Iran est aujourd'hui bloqué du fait de crise politique, de crispation, ben c'est pas tout à fait le dossier dont on parle aujourd'hui, mais quelque part l'Europe est en train de se mettre dans une situation, si vous voulez, j'ai presque envie de dire, de pénurie imposée à sa population, et cela ne pourra que nuire à terme à la croissance économique, au pouvoir d'achat de la population et partant peut-être même à la gouvernabilité des sociétés européennes,
oui,
de nos différents pays.
Merci beaucoup pour vos explications, Monsieur Dupré. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Cornu, étant donné les explications de Monsieur Dupré, également votre analyse, on sait bien que un des éléments importants et déclencheurs de cette crise énergétique, ce sont les politiques extérieures et étrangères des pays européens, surtout vis-à-vis de cette crise russo-ukrainienne. À votre avis, enfin, ce n'est pas la première fois que les pays européens, surtout, suivent les États-Unis dans leur politique d'expansionnisme et de semeur de troubles, en fait, dans le monde. Jusqu'où ce suivisme des Européens se poursuivra, à votre avis?
Mais, en général, il y a un suivisme, mais il faut distinguer dans les positions des différents pays européens.
Oui.
Généralement, les pays du Nord, les pays qui ont été affrontés violemment avec la Russie, comme la Pologne, les pays baltes, ont des positions très liées à l'atlantisme, très liées aux Américains, très positionnées contre la Russie, qu'ils voient comme un ennemi, disons, ancien, héréditaire, constant, et qui est portant du risque. Les pays comme la France, notamment, qui a une histoire de coopération avec la Russie, pas toujours très heureuse, mais enfin, qui est ancienne, essaye de maintenir le dialogue avec la Russie, et parce que nous avions aussi une tradition de gauche anti-impérialiste, anticoloniale, pour une partie de la France, qui a été un pays colonial, mais néanmoins, nous avons des positions souvent anti-américaines de la part de notre population, de certains partis de gauche, et qui fait que le gouvernement non majoritaire de M. Macron doit adopter des positions à peu près équilibrées et à répondre à cette volonté d'une grande partie de la France et de son opinion et de ses partis de s'affranchir un peu de cette tutelle américaine qu'on a perçue en France beaucoup trop prestante. Donc il est clair que le gouvernement français et le président Macron, chargés principalement de la politique étrangère, essayent de maintenir les liens avec la Russie et essayent d'ouvrir les possibilités d'une médiation peut-être conjointement avec la Turquie, qui permettrait d'envisager des négociations de paix, d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin le plus tôt possible à cette crise énergétique en Europe. La France, effectivement, est plus sensible à cette crise parce que, d'une part, elle a fait, moi, ce que j'appelle l'erreur, de faire beaucoup trop de chauffage électrique dans le secteur des ménages, des maisons, des appartements. Et donc, il y a une sensibilité très forte de la consommation électrique à la température extérieure en hiver. Plus il fait froid, plus la demande augmente dans le réseau électrique, la demande totale. Et donc, c'est à ce moment-là, des périodes de grand froid, qu'il pourrait y avoir des coupures en France et qui seraient très dommageables pour provoquer des réactions de l'opinion publique. Donc le gouvernement cherche à éviter cela. Et d'autre part, nous avons eu pendant très longtemps, à cause de notre parc nucléaire, un prix de l'électricité qui était largement inférieur à la moyenne européenne, presque deux fois moins cher qu'en Allemagne. Et donc nous avons des retards à nos chantiers de rénovation. Nous avons en moyenne des isolations des bâtiments beaucoup plus faibles qu'en Allemagne, qui avaient une énergie chère et qui avaient un climat encore plus froid. Donc cette sensibilité spécifique de la France à la crise énergétique, à ce qui pourrait se passer s'il y a de très fortes périodes de froid en hiver et durables, fait que la France, objectivement, a encore plus intérêt que d'autres pays à poursuivre les contacts avec la Russie. D'ailleurs, le président Macron a dit il y a 2-3 jours devant les maires qu'il allait reprendre contact avec le président Poutine en Russie, sans préciser dans quel objectif, mais à la fois pour le reprocher les bombardements très sérieux qu'il y a maintenant en Ukraine, pour désagréger un peu le système énergétique, le système électrique de l'Ukraine, mais aussi pour continuer ou reprendre les discussions sur les conditions Poutine pour participer à des négociations de paix. Et on peut espérer que alors la France se retournera aussi vers l'Ukraine en soutien avec l'Europe, en soutien avec la Turquie, pour inciter le président Zelensky à envisager des négociations qu'il avait considérées comme nécessaires au mois d'avril devant le président Macron. J'avais entendu cet entretien, mais que depuis quelques mois, il refuse à entreprendre avec la Russie pour des raisons de principe et à entretenir un blocage. Et arrêter cette guerre, ça suppose aussi de mettre des conditions beaucoup plus strictes, des limitations aux fournitures d'armes. Les Américains sont en tête, mais beaucoup de pays européens contribuent aussi, et ces livraisons d'armes, en fait, contribuent à entretenir la guerre. Il faut faire beaucoup plus d'efforts pour la diplomatie, pour arrêter cette guerre et éviter une crise énergétique grave pour les ménages en Europe, pour l'industrie en Allemagne et dans tous les autres pays européens qui auront aussi des dégâts considérables si cette crise vient à des moments de rupture des approvisionnements électriques dans les réseaux.
Merci pour vos explications. Monsieur Dupré, vous, à votre avis, quelles sont les conséquences de cette politique de suivisme des Européens, non seulement en Ukraine, mais dans la région du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, les pressions sur l'Iran? Est-ce qu'il n'est pas temps que les pays européens, ou du moins certains pays européens, commencent à se détacher des politiques américaines et une politique assez indépendante?
Alors, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte que cette crise est en train de placer l'Europe devant toute une série de contradictions qui auront plutôt pour effet de tétaniser un grand nombre de dirigeants, parce que c'est vraiment très lourd comme niveau de contradiction. Je vais simplement vous donner, alors avant de parler de politique extérieure, de la politique énergétique européenne.
Oui.
Elle a été marquée par une libéralisation et donc une ouverture à des acteurs spéculatifs, des secteurs du gaz et de l'électricité. Aujourd'hui, si vous prenez un mégawatt-heure, donc un million de watts-heure, sur un marché Amsterdam, c'est 130 euros. Et la plupart des ménages ici en Belgique reçoivent leur électricité, leur gaz qui est facturé aux alentours de 25 euros le kilowattheure. Mmh. Et donc on voit clairement que des grands groupes concentrés, capital concentré et des acteurs spéculatifs sont pour l'instant en train de, bah, si vous voulez, se servir des surprofits sur le dos de la population et des PME. Le modèle européen, puisqu'il ne permet pas une étatisation et une forme de dirigisme économique sur ce secteur-là, mmh. rend nos sociétés complètement impuissantes
oui.
Devant cette explosion des prix. Ça, c'est une première contradiction. On ne peut pas, si vous voulez, se lancer dans une opération de guerre si on n'a pas une économie de guerre, et une économie de guerre suppose des acteurs publics forts. Nous ne les avons pas en Europe. Premier niveau de contradiction. Deuxième niveau de contradiction, il est vrai que si nous suivons les États-Unis, et je tiens quand même à signaler que les dirigeants européens, le gouvernement en Italie ou en France, se sont déjà plaints, par exemple, auprès de Joe Biden, du niveau exagéré des prix du gaz naturel liquéfié qui nous était vendu en ce moment par les États-Unis. Donc si nous les suivons aveuglément, nous allons perdre de vue une chose, c'est que le marché énergétique aux États-Unis, de par la généralisation des exploitations, la technique gaz de schiste, de par les ressources naturelles inhérentes aux États-Unis, eh bien, tout simplement, c'est un marché qui est national. Nous, en Europe, nous ne disposons pas des ressources naturelles, notamment dans le domaine énergétique. Donc, effectivement, suivre les États-Unis aveuglément, sans disposer d'acteurs publics forts, est une politique profondément interventionniste et dirigée de la Commission européenne, cela nous expose à une crise structurelle de long terme du capitalisme européen. Parce que quand les prix de l'énergie, et votre reportage le signalait bien, quand les prix de l'énergie augmentent, en fait, les prix des aliments vont augmenter. Ils sont transformés dans des filières industrielles qui utilisent de l'électricité. Il en va de même pour toute une série de biens industriels. Et donc, mmh. le bien-être et le pouvoir d'achat de la population européenne, pour l'instant, et si vous voulez, menacé sur le long terme, et nous ne disposons pas, pour l'heure, d'élites politiques capables de résoudre les contradictions qui nous enferment dans cette spirale stagflationniste, dans cette spirale où les prix augmentent et où en même temps le niveau de l'activité économique reste stagnant parce que tout simplement un grand nombre d'entreprises oui. doivent fermer faute de rentabilité vu le niveau des prix de l'énergie en ce moment. Donc ces contradictions sont en train de nous enserrer et pour l'heure, ce que j'observe en tout cas, c'est que nos élites politiques ne sont pas capables de formuler des choix qui résolvent ces contradictions. Ou bien un fort dirigisme pour mettre au pas les multinationales de l'énergie, et à ce moment-là, l'Europe peut éventuellement envisager son rapport de force au reste du monde, ou bien nous continuons à vivre sur un marché libéralisé, mais il va falloir à ce moment-là faire des choix de politique étrangère qui nous permettent un approvisionnement à partir de l'extérieur, puisque nous ne disposons pas des ressources des États-Unis et nous ne pouvons pas les suivre aveuglément dans ce domaine.
Merci beaucoup, Xavier Dupré, économiste. Bernard Cornu, politologue, était avec nous pour ce débat. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Vous pourriez également revoir toutes les informations, également cette émission, sur notre site à l'adresse french.presse.tv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition d'Afrique Echo, d'une émission dans laquelle nous allons évoquer et réviser les principales informations et évolutions économiques du continent africain. Restez avec nous. Les négociations entamées avec les déteneurs des obligations s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant à assurer la viabilité de la dette. Cette restructuration de la dette est exigée par le FMI au Ghana, auprès duquel Accra espère obtenir un programme de financement de 3 milliards de dollars. Le gouvernement ghanéen envisage de demander aux déteneurs de ces euro-obligations d'accepter des décotes allant jusqu'à 30% du principal et de suspendre le versement de coupons aux déteneurs des obligations domestiques dans le cadre des négociations sur la restructuration de la dette du pays, a annoncé le vice-ministre des Finances John Kuma jeudi 24 novembre. En plus de la suspension des intérêts sur la valeur actuelle nette des euro-obligations, nous négocions des décotes allant jusqu'à 30% du principal avec les investisseurs étrangers. Les déteneurs d'obligations domestiques sont quant à eux appelés à renoncer au paiement de certains coupons, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Joy FM, une radio locale privée. M. Kuma a également précisé que tous les détails relatifs à ces négociations avec les déteneurs de titres de dette émis sur le marché local et sur le marché international devraient être annoncés d'ici fin novembre. Notons qu'il n'y aura pas de décote pour les déteneurs des obligations domestiques. Cette annonce contredit une précédente déclaration du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui s'était engagé à faire en sorte que le plan de restauration de la dette du pays exigé par le FMI en contrepartie du déblocage d'un financement de 3 milliards de dollars n'entraîne pas des pertes pour les déteneurs d'obligations. Aucun investisseur individuel ou institutionnel dans les bons du Trésor ou les obligations souveraines ne perdra son argent à la suite de nos négociations en cours avec le FMI. Il n'y aura pas de décote, avait-il assuré dans un discours retransmis en direct à la télévision d'État le 30 octobre dernier. Le Ghana, l'Éthiopie et la RDC figurent parmi les marchés ciblés par la banque qui a déjà démontré la solidité de son modèle au Kenya grâce notamment aux produits d'épargne et de prêts Shauri. Le groupe bancaire kenyan NCBA Group prévoit d'étendre ses activités à 8 pays africains dont le Ghana, l'Éthiopie, en utilisant sa plateforme digitale, a rapporté Bloomberg jeudi 24 novembre, citant un dirigeant de l'établissement. NCBA Group s'est associé à une institution financière au Ghana où il attend une licence pour commencer à prêter, a révélé John Gachora, le directeur général du groupe, sans plus de précision. Nous sommes en train de développer la technologie qui devrait être prête assez rapidement et l'idée est de la déployer au milieu de l'année prochaine avec nos partenaires au Ghana, a-t-il ajouté. M. Gachora a également fait savoir que l'Éthiopie fait partie des marchés que la banque souhaite pénétrer, rappelant que le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique a décidé récemment d'ouvrir son secteur bancaire aux investisseurs étrangers. Selon lui, la République démocratique du Congo figure aussi dans les petits papiers de NCBA, dont les évaluations montrent que ce pays riche en ressources naturelles est mûr pour les solutions bancaires numériques. Le directeur général du groupe bancaire kenyan a fait savoir que le coût de cette expansion africaine ne sera pas élevé. Il s'agira de coûts de licence parce que l'expansion est digitale. C'est une activité de fintech et les licences sont assez bon marché, a-t-il expliqué. Issu de la fusion de NIC Group et Commercial Bank of Africa en 2019, NCBA Group est l'un des pionniers de la banque digitale au Kenya. AIS IBM cherche à développer des perspectives d'investissement dans les marchés africains clés où il dispose d'un portefeuille et d'une expérience sur le terrain afin de s'assurer que NOAH puisse s'établir en tant que fournisseur de solutions énergétiques régionales. L'un des plus grands gestionnaires de fonds d'investissement privés axés sur les infrastructures en Afrique, Africain Infrastructure Investment Manager, a accepté de fournir un financement initial en fonds propres d'un montant maximal de 90 millions de dollars pour soutenir la création d'une nouvelle plateforme d'énergie renouvelable. Cette plateforme NOAH Group Holding, LTD, doit fournir davantage de solutions d'énergie net zéro pour l'Afrique. Nous sommes ravis de conclure cette transaction et de créer un partenariat durable avec IEM. L'acquisition permet à NOAH d'accroître rapidement ses ambitions de partenariat avec ses clients dans leur voyage vers le net zéro, tout en apportant une contribution à la crise énergétique actuelle de l'Afrique du Sud, a déclaré Karel Cornilesen, PDG de NOAH. La transaction sera principalement financée par une combinaison de capitaux propres fournis par le fonds sud-africain IDEAS d'IEM. Cet investissement renforce la position d'IEM en tant que l'un des principaux investisseurs dans le paysage des énergies renouvelables en Afrique du Sud, avec des projets représentant plus de 1,9 gigawatts de capacité de production solaire et éolienne. Ce nouveau financement intervient alors que la libéralisation des marchés sud-africains de l'énergie est accélérée par les changements réglementaires imminents qui permettent l'autoproduction sans avoir besoin d'une licence de production et la suppression des limites de taille de ces installations. Le secteur des technologies de l'information et de la communication prend de plus en plus de place dans l'économie nigériane, alors que les revenus pétroliers diminuent. Au troisième trimestre 2022, le secteur pétrolier a contribué à hauteur de 5,66% au PIB. Le secteur des technologies de l'information et de la communication a contribué à hauteur de 15,35% au produit intérieur brut réel du Nigeria au troisième trimestre 2022, selon le dernier rapport du Bureau national des statistiques. Ce chiffre est supérieur à sa contribution au même trimestre de l'année précédente, où il représentait 14,20%, mais inférieur à celle du deuxième trimestre, où il représentait 18,44%. En valeur nominale, le secteur des TIC a contribué à hauteur de 9,58% au PIB nominal total au troisième trimestre 2022, soit un taux supérieur à celui de 9,22% enregistré au même trimestre de 2021 et inférieur au 12,12% enregistré au trimestre précédent. La performance mitigée du secteur des TIC au troisième trimestre intervient dans un contexte économique particulier. En effet, la croissance du PIB du Nigeria s'est limitée à seulement 2,25% contre 4,03% au troisième trimestre 2021 et 3,54% au trimestre précédent. Le NBS attribue ce ralentissement aux effets de base de la récession et conditions économiques difficiles qui ont entravé les activités productives. Les télécommunications restent la locomotive du secteur des TIC nigérians. Ce sous-secteur a contribué à lui seul à hauteur de 12,85% au PIB réel, en hausse par rapport à 9,49% apporté au trimestre précédent. Alors que la transformation numérique s'accélère, les pays africains peinent à suivre la cadence. Le régulateur des télécommunications ougandais a identifié la charte des téléphones mobiles et de l'Internet comme les principaux obstacles à l'adoption des services numériques dans le pays. La Commission des communications de l'Ouganda négocie actuellement avec le gouvernement ougandais pour exempter les appareils de certaines taxes afin de réduire le coût des téléphones mobiles et faciliter leur adoption. C'est ce qu'a déclaré Irene Kagwa Sewanka, directrice générale de l'organisme de régulation en marge du Digital and Financial Inclusion Summit. Le smartphone le moins cher coûte environ 240 000 shillings, environ 64,2 USD. Le défi auquel nous sommes confrontés
est de savoir comment faire baisser ce prix pour que tout le monde puisse avoir un appareil connecté à Internet, a déclaré Mme Sewan Kokpo. Elle a ajouté que le coût élevé de l'Internet continue d'être un défi pour les produits et services technologiques. Selon les statistiques de l'UCC, pour le premier trimestre 2022, l'Ouganda compte 30,6 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, soit une pénétration de 69%. En ce qui concerne les appareils, le pays compte 20,92 millions de feature phones, 10,48 millions de smartphones et 3,63 millions de téléphones basiques. Les démarches engagées par l'UCC devraient notamment permettre de réduire le coût des téléphones mobiles et celui de l'Internet. Cela permettra d'accélérer la pénétration du mobile et de l'Internet en Ouganda dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique.